Les Tritons. Raphaël Hyspérian.
Bonjour, pour vos Tritons, nous allons parler d'un compositeur que nous entendons que très rarement. Et qui de mieux pour nous en parler que l'inénarrable Ernesto. Ernesto, bonjour.
Bonjour.
Quel est donc ce compositeur mystère?
Alors, il est mystérieux, je ne sais pas si les jeunes voix se posent des questions à son sujet, mais une rue lui est dédiée, hein, une rue qui justement, symboliquement peut-être jouxte le Victoria Hall, c'est la rue Bovillisberg. Donc, c'est un devoir pour nos mélomanes de faire preuve d'un peu de curiosité, de se dire qui c'était. C'était un personnage considérable pour son époque. Mmh. Mais pour des raisons qu'on tente à déclarer, il est guère passé à la postérité, même s'il a un catalogue de plus d'une centaine d'œuvres, ce qui est important.
Et pourquoi vous avez choisi de nous en parler aujourd'hui?
C'est un hasard, c'est un ami qui m'a offert un livre sur Bovillisberg, d'un certain Michel Cardinaux. Et puis j'en ai pris connaissance, et puis j'ai dit tiens, mais pourquoi ne pas mettre ce personnage à l'honneur? C'est un personnage qui est tout à fait attachant. Et alors je me suis dit, bon ben, le mettre à l'honneur, c'est organiser un concert. Donc sachant que c'était un citoyen de Dardanie et un amoureux fou de Dardanie, je me suis dit, proposons à la commune de Dardanie de faire un concert. Alors la commune était preneuse et on a un concert que je ne saurais trop vous recommander parce que on peut vous promettre une réelle découverte. C'est un concert qui aura donc lieu le 14 mai, tout bientôt, au château de Dardanie. Voilà. Alors ce qu'on entendra, c'est sous les doigts d'un pianiste, c'est un peu notre chouchou parce qu'il est brillantissime. Il se nomme Maxime Alberti et Maxime a bien voulu piocher au conservatoire, piocher dans les bibliothèques, travailler des œuvres, sélectionner et préparer un programme, ce qui représente un travail de longue haleine. Voilà. Donc, 14 mai, révélation, un grand compositeur genevois.
Donc, Charles Samuel Bovillisberg, il est né à Genève avec un nom pareil.
Oui, il est né à Genève. Il est né à Genève, il est genevois, on a parlé de Dardanie, mais il oscillait entre la ville de Genève et le village de Dardanie qui était son havre, c'est-à-dire qu'il y habitait et il y est enterré. Il est enterré non pas au cimetière, mais entre château et temple. Voilà, donc en bonne place pour le concert du 14, on sera à côté de sa dépouille.
Donc c'était toute une épopée d'aller de Dardanie à Genève à l'époque, en 1830 environ.
Oui, ben bien sûr, il n'y avait pas le Léman Express qui peut rallier les localités comme ça en 10 minutes. Mmh. Évidemment pas. Mais c'était sa terre promise, Dardanie. Alors, c'est un personnage important quand même, parce que il était l'élève de Chopin. Il est allé à Paris à un moment donné. C'est assez curieux, parce que Charles Bovillisberg aborde le piano assez tard, à savoir qu'il l'étudie sérieusement qu'à l'âge de 14 ans. Or, à 14 ans, il y a des petits mots qui sont déjà brillantissimes, qui sont déjà récitalistes, etc. Donc, chez lui, c'est une vocation tardive, mais tout à fait irrésistible. Et il ira à Paris, il prendra des leçons, d'abord avec un certain Ebner, bon, professeur obscur, mais enfin bon, il faut bien acquérir le béaba. Et puis ensuite, il sera élève de Chopin. Alors, c'est un trait de caractère très marquant de Bovillisberg, c'est sa modestie, c'est-à-dire que dans ses écrits, il ne cite jamais, il ne mentionne jamais ses leçons avec Chopin, au point que des musicologues ont vérifié quand même qu'il en a bien été le disciple, et il l'a été de 1839 à 1844, c'est-à-dire pendant 5 ans aux côtés de Chopin. Et Chopin ne prenait pas n'importe quel élève. Bon, on sait qu'au total, actuellement, d'après les listes, il y a peut-être une centaine de personnes qui se réclament qui se sont réclamées en son temps comme élèves de Chopin. Il y a eu des personnalités remarquables comme Pauline Viardot. Et puis alors, tout discrètement, Charles Bovillisberg. Et Chopin appréciait grandement Bovillisberg, et ça c'est un premier fleuron quand même apporté à son actif. Bovillisberg était l'interprète favori de Chopin pour ses œuvres. Chopin disait, voilà, ce jeune voix interprète mes œuvres exactement comme je les sens.
Chopin enseignait au Conservatoire de Paris.
Alors, il donnait des leçons particulières. Et lui, c'était à peu près un tiers de ses gains. Disons, un tiers de ses gains, c'était les concerts, un tiers, c'était les compositions, puis un tiers, c'était les leçons. Et il donnait des leçons, oui, dans des salons, chez les gens, dans l'aristocratie.
Parce qu'il n'y avait pas encore les royalties sur les partitions à l'époque.
Ah ben, disons, elles se vendaient quand même. Hein, donc, les éditeurs avaient de quoi se frotter les mains. Voilà. Alors, donc, Chopin a... parachevé l'apprentissage du jeune Bovillisberg. Et alors, on pense, quand on parle apprentissage, forcément aux études. Alors, ce que l'on va entendre maintenant, c'est une étude de Chopin. Ces études sont tout à fait remarquables parce que, à partir de 1810 environ, il y a une expansion absolument formidable du piano. C'est l'instrument à la mode, il se répand dans les salons, les facteurs de piano font fortune, ils se multiplient. Et puis, les grands maîtres qui proposent des études sont nombreux. On peut penser à Cramer, on peut parler à Czerny, on peut penser à Czerny, à Moscheles et à d'autres. Et c'est des études mécaniques qu'ils laissent, Clementi aussi, voilà, qui sont actuellement pas incluses dans les répertoires. Hein, voilà. Tandis que les études de Chopin sont si intéressantes du point de vue poétique qu'elles font partie du répertoire. Alors il a fait deux séries de 12, la série de l'opus 10 et la série de l'opus 25. Voilà. Alors ce que nous vous proposons d'entendre, c'est la toute première étude. C'est une étude qui était nommée La Cascade, parce que vous verrez, on est dans des arpèges assez curieux, très inspirés, très originaux, qui évoquent une cascade. Et alors, cette étude, elle avait un but précis, c'était surtout le travail de la main droite, qui tantôt est très écarté, tantôt très resserré. Alors, on ne voit pas ça à l'écoute, mais c'était une étude à la fois poétique et très ciblée techniquement. Voilà. Et voilà, donc tout ça montre que Bovillisberg, l'interprète idéal pour Chopin, avait atteint un niveau de perfection considérable.
Mmh. Donc aujourd'hui, on va l'entendre avec notre Georgi Chiffra national.
Oui, Georgi Chiffra, il est chez lui avec ça, évidemment. Ouais.
Et voilà, Ernesto, ici, l'étude opus 10, numéro 1 de Frédéric Chopin. Et nous sommes en train de parler de Bovillisberg.
Oui, Bovillisberg qui avait des affinités profondes avec Chopin, la façon de jouer, et puis, disons, dans la façon de ne pas être démonstratif. Alors bon, on peut se dire, mais en somme, pourquoi est-ce que Bovillisberg est à ce point oublié? Ben, c'était un personnage modeste, peut-être un peu trop effacé par rapport à son talent véritable. Et puis, dans la même époque, il y avait des gens qui aimaient s'exhiber. Alors, un qui aimait s'exhiber, ça, on en a déjà parlé à plusieurs occasions, c'était Franz Liszt, le quasi-inventeur du récital, et puis qui faisait des numéros 2 d'Esbrouf avec une virtuosité tout à fait fracassante et inimitable. Bon. Et puis, à cette époque, il y avait souvent des joutes entre musiciens. Par exemple, la fameuse joute qui a fait remplir des gazettes entre Liszt et Sigismond Thalberg. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, et c'est un facteur de l'oubli de notre cher Bovillisberg, c'est que Thalberg et Bovillisberg sont complètement aux antipodes l'un de l'autre. Complètement. Alors, Thalberg a acquis, grâce à sa virtuosité démonstrative, une fortune absolument énorme parce que ses récitals attiraient un monde incroyable. Voilà. Alors, justement, Bovillisberg, lui, ne cherche pas la virtuosité, il s'en tient à une mélodie simple, à des mélodies intelligibles, il fait une musique d'agrément, et puis voilà. Alors, il faut quand même écouter Thalberg, parce que ses œuvres ne sont pas inintéressantes. Il était virtuose, compositeur aussi, et je pense que, par exemple, sa grande fantaisie sur le barbier de Séville comporte un intérêt. À l'époque, on l'a vu pour Liszt aussi, les paraphrases étaient importantes, c'est-à-dire qu'on s'emparait de quelques thèmes à succès, et puis on brodait là-dessus, voilà, et ça plaisait énormément au public. C'était en quelque sorte une forme de variation libre. Alors, Barbier de Séville, quand même, je mets ça en rapport avec Rossini, parce que Bovillisberg adopte le credo musical de Rossini, c'est-à-dire des mélodies simples et des lignes qui sont pures, voilà. Donc, il y a un rapport entre Rossini et Bovillisberg.
Rossini aimait bien la Suisse, avec son Guillaume Tell. Hein?
Oui, ben bien sûr qu'il aimait bien la Suisse.
Oui, et Thalberg, par exemple, Schumann disait, c'est un dieu du piano, quand même.
Oui, c'est un dieu du piano, et puis encore une fois, pour la joute qu'il avait opposée à Liszt, il y avait égalité, le public qui était appelé à voter à l'époque avait renoncé à se prononcer parce qu'il y avait parité absolue entre Liszt et Thalberg, et il y a eu cette phrase qui ne veut rien dire du tout de Marie Dagou qui disait que Thalberg était le meilleur pianiste du monde et que Liszt, qui était son compagnon par ailleurs, était le seul pianiste du monde. Voilà.
Mais Chopin disait aussi, Thalberg joue excellemment, il joue les fortés et les pianos à la pédale et non avec les mains. Il fait des dixièmes aussi aisément que je fais des octaves et porte des boutons de chemise en diamant.
Oui, c'était un bel âtre, Thalberg, voilà. Disons comme ça. il est d'essence aristocratique, donc. Voilà, c'est pas un monsieur tout le monde.
Et donc là, on va entendre cette grande fantaisie sur le Barbier de Séville de Rossini, interprétée par Valentina Listissa.
Voilà, c'est une pianiste qui est jeune, très curieuse, éclectique, toujours très personnelle dans son jeu. Une forte tête, quoi.
Radio Cité Genève. Les Tritons.
Et voilà, Sigismund Thalberg, avec sa grande fantaisie pour sur le barbier de Séville, sur le thème du barbier de Séville, interprété par Valentina Lisista au piano.
Voilà, donc tout ça, ça se passe à Paris. Le Bovillisberg était venu suivre les cours de Chopin. Et c'est assez curieux parce que la vocation de Bovillisberg, c'est une vocation très divine. Il disait, il faut que je fasse fructifier les dons que Dieu m'a donnés. Et alors, ce projet de devenir pianiste pouvait contrarier son père, mais son père a joué le jeu avec grande sagesse et il a été jusqu'à lui offrir un piano. Voilà. Donc, l'affirmation de la vocation de Bovillisberg, c'est à Paris. Alors, il faut parler quand même un petit peu de la saga de la famille Bovy, parce que c'est une histoire tout à fait édifiante. Donc, les Bovy, c'est une famille française, c'est des Huguenots. Et en 1800 encore, l'ère de la France, pour les gens de confession protestante, l'ère est relativement malsain, tant et si bien que le grand-père de Bovillisberg, du compositeur, s'établit à Saint-Georges, dans le canton de Vaud, là où il y a des glacières contre le Jura, et son travail consiste à livrer du bois à droite à gauche, et voilà qu'il va faire des livraisons de bois notamment à Genève. Et puis l'endroit lui plaît et il a envie de s'y fixer, et alors tout de suite il s'installe et il va dans un atelier de gravure d'un nommé Verassa. Verassa, c'est un graveur, joaillier, quelque chose comme ça, enfin quelqu'un qui maniait le poinçon, disons, qui était un virtuose sur les métaux. Et puis, tout de suite, donc, le grand-père ouvre un commerce et il est graveur, voilà. Et ensuite, son fils, ça sera donc le père de Bovillisberg, le musicien, ça sera Antoine. Antoine poursuivra dans cette voie. Abordera d'abord la sculpture. À Paris, il fera connaissance de James Pradier, et puis de sculpteur, il deviendra fabricant de médailles. Et ces médailles auront grand succès, c'est-à-dire qu'il fera une médaille de Liszt. Ça permettra à Charles Samuel Bovillisberg d'entrer en contact avec Liszt, une médaille de Chopin, et puis aussi des médailles de personnages politiques comme James Fazi, et aussi une médaille de Paganini, etc. Donc le père Antoine, quand il s'installe à Paris, c'est un artiste reconnu qui ouvre une manufacture ou une usine, si vous voulez, qui emploiera pas moins de 40 personnes. Alors, figurez-vous que dans votre porte-monnaie, vous avez probablement une œuvre d'Antoine Bovillisberg, à savoir sur une pièce de 2 francs, l'Helvetia, au dos, qui est due à Bovillisberg père. Voilà. Alors, des gens qui sont partis de rien du tout, qui ont une activité florissante, qui s'enrichissent, on peut construire une maison-atelier à Saint-Gervais, on peut acheter le château de Gruyère, ce qui est quand même pas rien, une demeure en ville, etc. Donc, des gens dont la réussite est exemplaire. On parlera aujourd'hui de success story, n'est-ce pas? Donc, il y a une success story des Bovillisberg. Voilà.
Et c'est donc grâce aux médailles qu'il est rentré dans le monde musical, parce qu'on ne dirait pas que la famille était très musicienne.
Voilà, exactement. Exactement. C'est ses contacts qui ont contribué à le faire entrer en musique. Mais il y avait encore, je le redis, cette vocation par sa nature profonde, Bovillisberg aspirait à la musique.
Et là, vous nous proposez donc une pause musicale avec une barcarolle.
Alors, ça sera une barcarolle. Bovillisberg a écrit quelques barcarolles, notamment une barcarolle opus 7 qui a beaucoup plu à Liszt, et Liszt l'a encouragé à l'éditer, a permis cette édition. C'était quelque chose qui a contribué à son lancement à l'époque. Et la barcarolle qu'on va entendre, c'est une autre, c'est une barcarolle beaucoup plus tardive qui porte un numéro d'opus 130 et qui est en sol dièse mineur. Alors, nous allons l'entendre dans l'interprétation d'un certain Michel Cardinaux. Michel Cardinaux, ben, ce n'est pas un pianiste connu, mais c'est un personnage qui a beaucoup étudié Bovillisberg, qui est l'auteur du livre qui m'a renseigné sur cet artiste et qui, par ailleurs, je crois qu'il est domicilié à Yverdon, est un pianiste de qualité. Voilà, donc le grand expert de Bovillisberg à son clavier pour la Barcarolle opus 130.
Radio Cité Genève.
Les Tritons. Raphaël Hyspérian.
Thank you.
Et voilà Ernesto de Bovillisberg, la Baccarole en sol dièse mineur, opus 130, opus posthume, avec Michel Cardinaux.
Voilà, donc c'est une pièce qui est caractéristique du style et des aspirations de Bovillisberg. Alors, l'inspiration de Bovillisberg, c'est aussi largement une inspiration helvétique. C'est-à-dire qu'au XIXe siècle, la Suisse attire les romantiques parce qu'il y a quelque chose d'épique dans ces paysages. Hein. Ce n'est pas le plateau l'Emmental qui inspire les romantiques, mais les pics, les glaciers suspendus, les cascades, etc., qui nourrissent l'imaginaire de ces éternels promeneurs que sont les romantiques. Alors, Bovillisberg, plus souvent qu'à son tour, s'est promené en Suisse. Et alors, c'est de ces promenades que provient son nom de Lisberg. On peut se poser la question, d'où est-ce que ça vient? Alors, il y a des personnes qui ont pensé que c'était un croisement Bovillisberg de Liszt et de Thalberg, les deux personnages dont on en parlait. Mmh. Lisberg, voilà, contraction, ça donnerait, voilà. Mais la fille de Bovillisberg a dit non, ça c'est pas vrai. Mon père était trop modeste pour s'être jamais livré à un pareil petit jeu narcissique. Donc Lisberg, c'est tout autre chose. L'artiste se promenait dans le Jura bernois, un peu comme le promeneur de Töpffer, un peu aussi comme le promeneur Obermann de Franz Liszt.
Le Wanderer.
Et puis, il arrive à un petit village qui se trouve approximativement à mi-chemin entre Delémont et Bâle. C'est un village qui s'appelle Lisberg, mais ça s'écrit L-I-S-B-E-R-G. Alors, Bovillisberg trouvera qu'avec un Y, ça fait plus joli. Donc, il accolera ce deuxième nom. Mais voilà, ce village lui est apparu comme un petit paradis, comme un endroit tout à fait idyllique. Alors, il y a quelque chose de très très suisse donc, chez Bovillisberg, mais son attache véritable, c'est à Genève. Son attache, elle est double à Genève. C'est-à-dire, d'une part, c'est son Dardani bien-aimé, et d'autre part, Quedeberg. Quedeberg, pour aller en pèlerinage là-bas, si ça vous dit, Quedeberg numéro 17. Et c'est là qu'il donne des leçons. Pour Bovillisberg, c'est une période tout à fait florissante. Il donne des concerts nombreux dans des salons, pas dans des grandes salles de concert, comme Chopin, il a le goût de l'intimité, dans des salons et puis aussi souvent dans de très très grandes demeures paysannes. Donc au total, avec ses partitions, ses éditions qui rencontrent le succès, avec ses concerts, avec ses leçons, voilà Bovillisberg qui se trouve dans une situation matérielle extrêmement aisée. Il se promenait dans le Jura, autour de Dardanie, il aimait aussi se promener, notamment, c'est ce qu'on nous rapporte, dans le vallon de la Roulave, qui est une petite rivière qui descend du Jura. Voilà, donc, un Bovillisberg inspiré par la Suisse, inspiré par la nature.
Bon, il provient quand même d'une famille aisée, comme vous l'avez dit.
Oui, tout à fait.
Un peu comme Poulenc avec son père.
Oui, mais alors, c'était pas un fils à papa. C'est quelqu'un qui a exploité son propre talent avec sagesse, de manière tout à fait judicieuse. J'aurais dû dire au passage quand même qu'à Dardanie, il s'est pris d'une jeune fille de la famille Fazi, qui était la fille du frère du politique James Fazi, et qu'il a épousé, et que là aussi il a mené une vie conjugale tout à fait heureuse. Donc au total, nous avons affaire à un personnage qui est bon, qui est grandement paisible, et qui, comme enfant déjà, était tout à fait docile, constructif, et qui ne rêvait que de faire honneur à ses parents. Alors, ce que nous pourrions entendre maintenant, c'est son opus 1, c'est une suite de valses, puisque nous parlions de son inspiration helvétique, ces valses sont intitulées « Les Suissesses ». Et celui qui les interprète, c'est, à nouveau, le fort bien placé pour cela, Michel Cardinaux.
Radio Cité Genève. Les Tritons. Thank you.
Les Suissesses, Ernesto, de Bovillisberg.
Voilà, les Suissesses, donc de Bovillisberg a arpenté les cantons, par exemple à Appenzell, voilà, donc ça l'inspirait. Mais de temps en temps, il avait d'autres ressources. On sait qu'il a notamment composé un opéra qui est passé à la trappe. Il a composé presque exclusivement pour le piano, mais il y a aussi quelques mélodies. C'est clair que ce n'est pas un symphoniste. Dans son œuvre qui est très très majoritairement pianistique, il y a des pièces tout de même d'une certaine variété, des pièces brillantes. À Dardanie, on joue un grand allegro de concert qui était son tube, qui était son triomphe, qui déchaînait l'enthousiasme. Et puis, pourquoi pas découvrir une pièce tout à fait mouvementée qu'il a intitulée « Le tournoi ». Une pièce peut-être assez descriptive, on peut l'imaginer, de Franz Liszt, qui aime toujours apprendre une référence concrète.
Son opus 37.
Voilà, son opus 37, toujours par Michel Cardino.
Radio Cité Genève. Les Tritons. Thank you.
Et voilà, le tournoi opus 37 avec Michel Cardino de Bovillisberg, Ernesto.
Voilà. Alors, reste peut-être, pour explication de l'oubli, à essayer de cerner l'identité musicale du personnage Bovillisberg. Alors, il y a un grand musicologue, c'est Eigeldinger, qui est le spécialiste de Chopin, qui connaît aussi bien l'œuvre de Bovillisberg. D'ailleurs, sur Bovillisberg, il y a quelques ouvrages assez intéressants, Samuel Bobovy et autres, qui nous permettent finalement de connaître et de reconnaître le personnage dans son ampleur. Alors, Eigeldinger a dit, eh bien, voilà, le style de Bovillisberg, c'est une synthèse de trois personnes, c'est-à-dire Liszt, Chopin et Mendelssohn. Mendelssohn, c'est la douceur, c'est la transparence, c'est quelque chose de très mozartien. Comme on l'a dit tout à l'heure, le vrai credo musical, il l'a dit lui-même, hein, Bovillisberg, c'est celui de Rossini, c'est-à-dire qu'il faut aller à l'opéra écouter des chanteurs. Et quand on a l'habitude de leur ligne mélodique, on peut écrire du Bovillisberg. Bovillisberg donc voulait des rythmes et des mélodies qui soient tout à fait simples. Il ne voulait absolument pas repousser les limites du clavier. On connaîtra des artistes bien ultérieurs qui essayeront de faire autre chose avec le piano, de pousser plus loin. Ça n'intéresse absolument pas Bovillisberg qui se cantonne dans l'intimité. Et puis, puisqu'on disait Mendelssohn parmi ses inspirateurs, Mendelssohn a écrit un recueil assez important de romances sans paroles. C'est-à-dire, c'est une musique de quiétude, c'est une musique de bien-être, c'est une musique peut-être un peu narrative, mais qui se passe des mots. Alors, c'est tout à fait significatif que Bovillisberg ait écrit aussi des romances sans paroles. Alors, encore une fois, pour définir l'identité de Bovillisberg, on est complètement à l'opposé du style orchestral. Le piano de Liszt est souvent orchestral, ou le piano de quelques autres auteurs, ça peut être Tchaïkovski, est orchestral. Et là, on est dans l'intimité d'une romance sans paroles.
Il ne faisait pas trop peur, donc, lors des concerts qu'il donnait dans les salons.
Non.
Moi, c'était de la musique feutrée.
C'est de la musique feutrée. C'est de la musique intérieure. Mais à l'époque, ça rencontrait le succès. Mais évidemment que dans des temps où on cherche l'exploit, où on cherche à faire sensation, peut-être qu'on éprouve moins d'intérêt pour ceci, mais c'est quand même des vérités intérieures qui l'étalent. En somme, de la part de Bovillisberg, c'est des narrations et... Il ne cherche pas à être visionnaire comme pourrait l'être Liszt. Pour moi, la conviction très nette, c'est que si Bovillisberg avait connu la musique du XXe siècle, il l'aurait radicalement détestée.
Est-ce que Bovillisberg a été professeur ?
Oui, il était professeur. Il était professeur un peu au conservatoire, mais la plupart de ses cours, c'était de l'enseignement privé.
Donc au conservatoire de Genève, entre 1848-49...
Voilà. Mais bon. C'était un rapport assez ténu, oui, c'était secondaire. Bon, évidemment, on peut dire dans les pas de Franz Liszt. Nous disions tout à l'heure que Bovillisberg était inspiré par Mendelssohn, au point qu'effectivement il a écrit quelques Lieder ohne Worte, mais le précurseur de ce genre musical, c'est Mendelssohn. Mendelssohn, que nous avons posé il y a un instant comme un vrai inspirateur de Bovillisberg. Voilà, alors je vous propose le Lied ohne Worte, opus 19, numéro 1, qui sera interprété par le très grand Daniel Barenboim.
Radio Cité Genève. Les Tritons.
Et voilà, Ernesto Mendelssohn et ses Lieder ohne Worte, opus 19, en tout cas le premier en mi majeur avec Daniel Barenboim.
Voilà, chef-d'œuvre qui a inspiré donc Bovillisberg. Alors, pour conclure, je rappelle l'événement réel, patrimonial que représentera ce concert dédié à Bovillisberg. Ce sera au château de Dardagny le 14 mai à 18h30. Et donc, c'est tout un petit cocktail de pièces brèves que nous allons entendre. Pièces brèves ainsi que les romantiques les adorent. C'est voilà, un éclair d'inspiration. Et puis, ça ne donne pas lieu à des sonates héroïques, mais simplement à une musique de bien-être.
Je m'en réjouis de vous y retrouver. Allez, je vous souhaite une bonne journée, ainsi qu'à vous, chers auditeurs. Et je remercie Olivier Steinmetz pour la réalisation de cette émission. Au revoir.
Au revoir, à bientôt.
Les Tritons. Raphaël Hyperion.